lecture relativement brève. Hein. Dans le livre, dans l'épître de Paul aux Galates, on va commencer par cette lecture, dans Galates 5, on va lire les versets 1 et, le verset 13. Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et le verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Amen. Gloire à Dieu. » Voilà, mémorisons bien ces quelques versets. Le livre du prophète Osée, au chapitre 2, un seul verset, deux versets, c'est un texte que beaucoup connaissent bien. Osée, chapitre 2, le verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance. Amen. Le verset 16, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. On va y revenir, bien sûr, au fil de la prédication. Et dans le livre du Deutéronome, le chapitre 15, le chapitre 15 et le verset 12, ce sont donc des consignes, des prescriptions, des lois que Dieu a établies et adressées à son peuple. Chapitre 15, verset 12 du Deutéronome, « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. » Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi », alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Amen. Vous le savez, dans tous ces livres, le Lévitique, le Deutéronome notamment, Dieu a donné un grand nombre de lois, de principes pour un fonctionnement harmonieux est béni au sein de son peuple. Alors il y a des lois qui régissaient la vie cultuelle concernant les sacrifices, etc. La vie sociale, ici nous trouvons dans ce chapitre 15 quelques lois concernant la vie sociale. Il y avait des lois concernant la santé, l'hygiène, tout ce qui concernait l'alimentation, le contact avec des personnes ou des animaux malades ou morts, etc. D'une manière minutieuse et pour le bonheur de son peuple, Dieu a donné des lois nombreuses qui prévoyaient tous les cas de figure et tous les besoins. Et puis ici, donc parmi les lois sociales qui sont énumérées, il y a une mise en situation. C'est comme un scénario, comme un film, quoi. Le Seigneur présente un scénario et il dit, si ton frère hébreu se vend à toi, on imagine la situation extrême de la personne pour en arriver à envisager de se vendre à autrui, de devenir son esclave. C'est donc quelqu'un qui se trouve dans une situation d'impasse absolue, après avoir réfléchi, tourné et retourné dans sa tête toutes les possibilités de s'en sortir, sa conclusion, c'est qu'il ne peut pas s'en sortir par lui-même, alors il se vend comme esclave à un autre hébreu dans le peuple, eh bien Dieu va donner des lois. Et notamment, cette loi qui stipule que cet hébreu qui se vend comme esclave sera pendant 6 années au service de son maître. Mais que la 7e année doit absolument intervenir cette loi où le maître rend sa liberté à son esclave. La 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et voici que cet homme, qui 6 ans en arrière était complètement au bout du rouleau, sans espérance, et après avoir travaillé pendant 6 ans, se voit offrir la liberté. On est bien d'accord, je pense tous, pour dire que la liberté n'a pas de prix. La liberté, la vraie liberté, la liberté émotionnelle, psychologique, la liberté dans certains pays, on a prié pour les pays de persécution, la liberté de croire, de chanter des cantiques, de témoigner de Jésus. Une vie sans exposition à la menace ou à la tracasserie, la vraie liberté. Être libre, sans ressentir la moindre contrainte ou oppression, eh bien, cet homme se voit offrir la liberté. Et je fais ici une projection avec Galates 5:1 qui nous dit, nous l'avons lu ensemble, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelle grâce, hein ? Est-ce que vous vous souvenez du jour où le Seigneur vous a libéré du poids de vos péchés? Moi, je m'en souviens, mais quelle sensation indescriptible! Quand je lis et je relis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est quelque chose d'indescriptible, d'ineffable. Il faut le vivre, la liberté que Christ nous offre. Il brise toute forme d'influence dominante, tout élément qui voudrait nous réprimer, qui voudrait nous compresser, qui voudrait empêcher notre rayonnement, notre épanouissement. Quel miracle, quelle bénédiction aussi. D'un coup, d'un seul, le jour où je donne mon cœur à Jésus, il me rend libre, alléluia. Libre du regard des autres, libre de ce que les autres pensent de moi, libre de ma réputation dans l'esprit de mes tiers, libre de toutes sortes de paramètres négatifs, libre, gloire à Dieu, libre de la timidité, libre de la crainte, libre de l'angoisse du lendemain, de l'inquiétude, libre face à des circonstances complexes, face à des défis impressionnants. Être libre, c'est ce que le Seigneur nous offre. J'aimerais dire ce soir, beaucoup le savent, mais peut-être quelqu'un a besoin de cette parole, seul Jésus peut te rendre libre. Amen. D'une vraie liberté. C'est pas une liberté imaginée, c'est pas une liberté autosuggérée, c'est une vraie liberté, gloire à Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous libérer. Et pour inaugurer son ministère terrestre, il mentionnera l'un des objectifs de sa mission, proclamer aux captifs la délivrance, la liberté. Que Dieu soit béni. Et voici que cet Hébreu se voit proposer la liberté. Mais Dieu va préciser, tu vas lui rendre la liberté, mais pas à vide. En plus de sa liberté, cet homme se voit proposer un pactole. Un pactole. Tu vas lui donner, eh bien, des présents, des troupeaux. Tu prendras de tes troupeaux et tu en prendras une partie que tu lui donneras. Un pactole. Les fruits et les abondances de ton air, le blé, etc., de ton pressoir, l'huile, le vin, tu lui donneras un pactole. Et voici que non seulement cet homme se voit offrir la liberté, mais en plus, il se voit offrir un pactole avec lequel il peut envisager des projets. Il y a une perspective qui s'ouvre pour lui et il peut réfléchir. Oh, enfin, je vais pouvoir réaliser mes rêves, mes passions, je vais pouvoir entreprendre. Oh, c'est l'occasion indiquée, super, et il est là devant un avenir qui semble tellement alléchant. Et puis voici que il n'y va pas. C'est incroyable. Il n'y va pas. Il prend une décision qui défie la logique humaine. Il dit à son maître, « Maître, je te remercie, tu m'offres la liberté, un pactole extraordinaire. Merci, qui suis-je pour ça ? Mais si tu acceptes ma décision, je préfère rester chez toi. Je préfère renoncer à ces troupeaux nombreux, ces présents, cette abondance qui aurait pu me permettre, moi, de gravir des échelons et d'aboutir à un certain succès. Maître, dans mon cœur, j'ai une préférence. Je veux rester chez toi. Je veux pas de cette liberté-là. Je veux rester chez toi. C'est quelque chose qui défie, je le disais, la raison, la logique humaine, mais qui trouve dans le texte biblique son explication. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi », voici l'explication. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il aime ta maison. Et parce qu'il se trouve bien chez toi. Il y a trois raisons qui font que cet homme ne veut pas de cette perspective pourtant alléchante, il préfère rester sous la dépendance de son maître. Et j'aimerais, frères et sœurs, faire une projection nous concernant directement, parce que je trouve ici trois éléments essentiels. On n'est plus dans l'Ancien Testament, mais ces éléments, eux, traverse les dispensations et le temps. Je crois que trois éléments doivent caractériser notre vie avec Christ. C'est que nous l'aimons. C'est que nous aimons sa maison. Et c'est que nous disons avec sincérité être bien dans sa maison. Amen. Voilà, c'est un QCM en trois questions que je vous propose. Et vous cochez oui, non, peut-être. Est-ce que j'aime Christ? Oui, un peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas. Est-ce que j'aime sa maison, qui n'est pas le local en parpaing, hein, mais sa maison, c'est l'église. Hein. Est-ce que j'aime son église, mes frères, mes sœurs, QCM? Il y en a qui vont dire un oui avec trois points d'exclamation, d'autres vont dire moins. C'est un test. La parole de Dieu, parfois, est un test. Et est-ce que je me trouve bien dans sa maison? Trois questions. Et je prie le Seigneur pour qu'un oui massif retentisse de la bouche de chacun. Et que ça soit vraiment le reflet, bien sûr, personnel, intérieur. Hein. Ce n'est pas un slogan qu'on veut hurler, mais c'est un témoignage qu'on veut exprimer, dire. Seigneur, oui, je t'aime. J'en connais un autre qui, avec quelques difficultés, est arrivé à cette confession. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'ai renié. Tu sais que je ne vaux pas grand-chose. Tu sais que je suis retourné à mon ancienne profession. Tu sais que j'ai été découragé. Tu sais que je suis gangréné par le remords. Tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Et voyez-vous, c'est notre amour qui va valider notre vie chrétienne et notre service chrétien. Amen. Ah oui, c'est notre amour. 1 Corinthiens 13 le dit clairement et magnifiquement que l'on peut faire des choses admirables au regard des hommes, sacrifier sa vie d'une manière ou d'une autre, etc. Mais si je n'aime pas, je ne suis rien. Sinon, une cymbale qui retentit, ça ne me sert de rien, etc. Parce que c'est l'amour de Dieu qui remplit le cœur du croyant qui va valider sa vie spirituelle, sa foi, son service, sa marche chrétienne, que Dieu soit béni. L'absence de l'amour divin dans mon cœur neutralise et annihile tout le reste. L'élément qui valide, c'est notre amour. C'est pourquoi que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Amen. C'est miraculeux. Vous le savez, on a adresser des questions un peu subtiles pour piéger le Seigneur, et notamment sur les commandements, quel est le plus grand, etc. Mais Jésus va dire, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il va ajouter que tous les autres commandements sont inclus dans ce double commandement, on va dire. C'est indissociable, ça. Aimer Dieu, aimer le prochain, c'est indissociable. Mais c'est de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel. Il y a des formats d'amour admirables sur Terre. Même des personnes qui ne sont pas du tout croyantes sont capables de choses admirables. Je ne sais même pas si dans certains contextes, je serais capable, moi, de faire ce que certaines personnes font. Donc, il y a des formes d'amour humain qui sont admirables. L'amour d'une mère, par exemple. Vous voyez, l'amour d'une mère, mais c'est quelque chose de tellement fort, tellement beau également, vous voyez. Mais là, il est question de l'amour de Dieu en toi et en moi. L'amour de Dieu. D'ailleurs, dans le grec, il y a trois mots, trois verbes pour parler d'aimer. Et il y a un verbe qui est exclusivement réservé à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu, dans ses 10 commandements, dit « tu n'adoreras pas d'idole, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. » Car l'Éternel est un Dieu jaloux. Le mot « jaloux » peut avoir une connotation négative. C'est pas bien d'être jaloux. Oui, c'est sûr, il y a des formes comme ça. Mais dans le langage de Dieu, le mot « jaloux » contient une notion, une image d'un métal chauffé à blanc. Les températures sont tellement élevées que ce métal fond et il est chauffé à blanc. Et Dieu est en train de dire, moi, je t'aime comme cela. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est comme un métal chauffé à blanc. Vous voyez? On peut pas, je sais pas, je prends un petit exemple pour vous détendre un peu. Mes sœurs, votre mari vous dit, chérie, je t'aime à 99%. Pas mal, hein? Mais ça ne va pas vous satisfaire. Il n'y a pas une épouse qui va dire, ah ben merci, c'est bien. Non, non. Vous allez dire, et le 1% qui manque? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne peut jamais aimer en pourcentage. On aime ou on n'aime pas. On aime à 100%, sinon ce n'est pas l'amour selon la norme divine. Il en est ainsi de la fidélité. Vous, les sœurs, vous dites à votre mari, je te suis fidèle à 99%. Votre mari, il ne va pas dire, ah ben, merci, c'est bien. Non, il dirait, et le pourcent qui manque là, qu'est-ce que ça signifie? Voyez, il y a des domaines où la norme, c'est l'absolu. C'est pas le relatif, c'est l'absolu. Et mon frère, ma sœur, vous et moi, nous sommes appelés à aimer notre Dieu absolument, dans l'absolu. C'est un amour absolu. On l'aime quand il nous bénit, on l'aime quand la bénédiction tarde, on l'aime quand, à la place de la bénédiction, il y a une épreuve, on l'aime d'un amour absolu. Et en cela, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour rendre notre amour pour Christ semblable à un métal chauffé à blanc. Ça va, vous êtes chaud? En tout cas, le Seigneur, il veut vous embraser, hein? Il veut nous embraser. Un métal chauffé à blanc, on doit l'aimer. Et c'est ce qui a permis à cet esclave de faire ce choix. Mais c'est parce qu'il aimait tellement son maître qu'il ne voyait plus sa vie autrement qu'avec lui. Parce qu'il t'aime que le Seigneur nous donne d'être renouvelé dans notre amour pour lui. Amen. Ce que j'ai contre toi, dira le Seigneur, c'est que tu es devenu tiède. Tiède. Voilà. Et à Éphèse, il dira, ce que j'ai contre toi, eh bien, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et la teneur et l'ardeur et la qualité de notre amour pour sa personne est certainement un des éléments sur lequel il portera ses regards. Voilà. On aime le Seigneur? Oui ou non? Faites-moi quelque chose, je sais pas. En tout cas, ça pourrait être pour vous comme pour moi une prière prioritaire. Esprit de Dieu, visite ma vie, embrase mon cœur et remplis-moi d'un amour ardent pour mon Dieu, pour mon Sauveur. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'il t'aime, et forcément parce qu'il t'aime ta maison. Parce que c'est indissociable. Hein? L'apôtre dira que celui qui dit « aimer Dieu et qui n'aime pas les frères ben, », version Tcherkessian, il y a un problème. Il aime ta maison, il aime ta maison. Il y est viscéralement attaché. Ta maison devient sa maison. Il aime ta maison et sa motivation, son idéal de vie, c'est le bonheur de ta maison, la prospérité de ta maison, c'est le bien-être de ta maison. Il aime ta maison. Il aime ta maison. Et je crois que nous devons ressembler à Christ, le souverain sacrificateur qui porte son Église sur ses épaules et sur son cœur. Amen. Et voilà, il porte, vous savez que Jésus porte son Église sur ses épaules solides qui assurent à son Église la stabilité et sur son cœur. Et nuit et jour, en permanence, il intercède, nous dit la Bible. Il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour chacun de ses rachetés. Gloire à Dieu. Avec son parcours personnel, ses besoins personnels, dès qu'un signe de fragilisation intervient, oh, il intercède, il porte l'Église sur son cœur. Et je crois que nous devrions être à l'instar du Seigneur. Lui est le souverain sacrificateur, nous sommes les sacrificateurs, puisque nous sommes devenus un sacerdoce royal, gloire à Dieu, nous sommes des sacrificateurs et des sacrificateuses. Nous devons porter l'Église sur le cœur. Et nous devons prier. Je me souviens, c'est vraiment une petite anecdote comme ça, je me souviens du jour où je devais aller passer mon examen de conduite pour avoir mon permis de conduite. Alors, tu étais tranquille toi, Mathis, pour le permis? Moi, je n'étais pas tranquille. Je me revois encore dans ma chambre là, et je dis, Jean-Marc, il faut que tu pries. Et je me suis mis là, et je voulais commencer à prier, et le Seigneur a mis sur mon cœur le verset « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses, donc mon permis de conduire, vous seront données par-dessus. » Et j'ai compris qu'il fallait surtout pas que je prie pour mon permis de conduire. Et j'ai prié de tout mon cœur, pour mon pasteur, pour mon église, pour les malades dans l'église. J'ai passé une demi-heure à intercéder pour la conversion des perdus, l'œuvre de Dieu dans l'agglomération lyonnaise. Et une paix, une joie et une certitude. J'avais mon permis dans mon cœur, je l'avais déjà. Je suis allé sur les quatre, j'ai été le seul à l'avoir. Et ça a été pour moi une expérience, entre autres, qui a construit ma vie spirituelle. Les intérêts de la maison de Dieu, les intérêts de l'Église. L'apôtre Paul dira, mais oh, je n'ai ici personne qui prenne à cœur les intérêts de Christ. Chacun recherche ses propres intérêts. Et ça suscitait des larmes chez l'homme de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit veut embraser notre cœur d'un amour très fort pour l'Église, pour les croyants. Alléluia, quand l'Église va, je vais. Amen. Quand je vois trois baptisés, dimanche après-midi, c'est la fête dans mon cœur, alléluia. Lorsque je vois des personnes qui avaient abandonné la foi revenir, c'est des louanges au Seigneur, alléluia. Et quand je vois le contraire, ce sont des larmes de prière et d'intercession. On aime la maison de Dieu. Et puis, le troisième facteur qui donc justifie le choix de cet homme, il t'aime. Il aime ta maison et il se trouve bien chez toi. Il se trouve bien chez toi. Alors, j'ai réfléchi un petit peu sur cette expression. Qu'est-ce que ça peut signifier « je me trouve bien ici » ? Et j'ai trouvé trois réponses. Vous en aurez certainement d'autres aussi valables. Mais je vous livre les miennes. Je me trouve bien ici, je pense que ça peut signifier, je sais que c'est là ma place. Je suis à ma place, je le sais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas mieux ailleurs, peut-être qu'il y a mieux ailleurs, mais je sais que Dieu me place ici. Et je suis bien parce qu'il n'y a rien de plus agréable et de plus réjouissant que d'être sûr d'être là où Dieu nous veut. Amen. Là où Dieu nous veut. Il y en a qui ont essayé d'esquiver, il y en a qui ont pris des bateaux pour Tarsis, mais Dieu ne les voulait pas à Tarsis, il les voulait à Ninive, Bon, ils ont failli mal finir, mais bon, Dieu a été bon hein, avec Jonas. Bon, et on pourrait multiplier les exemples de personnes à qui Dieu avait dédié une mission, une place, une fonction, un service, et puis pour X raisons, ils ont essayé des échappatoires. Mais cet homme qui dit à son maître, oh, je suis bien chez toi. Moi, je comprends dans cette confession, je sens que je suis à ma place. C'est là ma place. Je sais que ma vie va prendre tout son sens là, dans ta maison. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a réservé une place pour toi dans sa maison. Il n'y a personne qui pourrait imaginer le contraire. Dieu, dans sa sagesse, n'oublie aucun de ses rachetés dans le positionnement, dans la qualification d'un service. Il y a une place pour chacun et cette place, elle doit combler ton cœur. Amen. Ouais, quand j'étais jeune converti, là, les premiers mois, les deux, trois premières années, j'avais des jeunes amis dans mon église qui étaient des musiciens super. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien jouer comme eux. J'ai essayé. J'ai essayé la mandoline. Mais le temps que je mettais pour accorder les cordes, les chants étaient finis déjà. J'ai essayé le saxo, le piano, un petit peu la guitare. Mais c'était pas ma place. Bon, mais j'ai fini par l'admettre et par remercier le Seigneur pour la place qu'il m'a dédiée. Et maintenant, quand j'écoute des bien-aimés chanter avec beaucoup d'intensité et de qualité aussi les louanges du Seigneur, je suis béni. Alléluia. Ça descend comme une rosée et ça me fait tellement de bien. Chacun doit réaliser, comprendre et aussi saisir la place que Dieu lui a donnée dans son Église. Je suis à ma place. La deuxième explication que je me suis donnée, c'est là vraiment, dans ta maison, je le sais, que je vais être utile. Je vais être utile. La volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons utiles à son œuvre. À son œuvre. On peut avoir l'embarras du choix de toutes activités que le monde propose. On peut faire plein de choses intéressantes. Mais quand on aime Christ de cet amour brûlant, la priorité, c'est d'être utile à son œuvre. Être utile. En Haute-Savoie, il y a un magasin touristique, l'enseigne dit « utilité » au pluriel, « futilité » au pluriel. « Utilité, futilité ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de futilités qui nous embarrassent l'esprit, qui nous prennent du temps, beaucoup de futilités. Les futilités passent, c'est comme de la paille que le vent emporte. Mais la Bible nous dit, en parlant des fidèles, leurs œuvres les suivent dans le ciel. Et moi, j'aspire à produire des œuvres et des fruits qui vont me suivre dans le ciel. Amen. Je ne veux pas ressembler à Salomon qui disait « vanité des vanités ». Quand vous lisez tout ce qu'il a fait, Salomon, c'est incroyable, des travaux gigantesques, il a fait des choses incroyables, incroyables, et à la fin, cette conclusion pathétique, vanité des vanités. Mon frère, ma sœur, ta vie d'enfant de Dieu n'est pas appelée à évoluer dans les vanités, ni dans les futilités, mais dans l'utilité. C'est ce que cet homme, certes, moi je le comprends comme ça, je suis bien dans ta maison parce que dans ta maison, je suis utile. Ma vie a un sens, elle engendre des fruits concrets et sérieux, je suis bien dans ta maison. Et puis, je me suis aussi dit que cette confession pourrait signifier, c'est là que je suis pleinement béni. Quelquefois, je ne sais pas si on prend la mesure du privilège qui est le nôtre. Moi, je me suis souvent rappelé, volontairement, que dans mon église, je dirais d'origine, pendant les 8 premières années, mon église m'a nourri. Mon église m'a soigné. Mon église m'a encouragé. Mon église m'a construit. C'est dans mon église que j'ai été béni, fortifié. J'ai grandi, alléluia. Le bébé du jour du baptême a grandi, devenu enfant, adolescent. Et voilà, et c'est dans la maison de mon Seigneur que j'ai reçu toutes ces choses-là. Et je crois qu'il faut bénir Dieu pour le privilège, la grâce incomparable que nous avons d'être des gens de sa maison. Alléluia. Être bien dans sa maison. Alors voilà, pour ces trois raisons, eh bien, l'hébreu dit, ben voilà, moi je refuse la liberté et le pactole, je veux rester ton esclave, à ton service. Alors, Dieu a donné cette prescription, on va terminer là-dessus, simplement en citant la chose, tu l'amèneras vers le poteau de la porte. Tu lui prendras l'oreille, tu appliqueras l'oreille contre le montant de la porte et avec un poinçon, boum, tu lui perceras l'oreille. À partir de ce jour, il sera pour toujours à ton service. Il t'appartiendra définitivement. Et je voudrais simplement dire deux ou trois choses concernant ce geste chargé de symbolisme et d'une portée spirituelle. J'aimerais dire que notre oreille a certainement une importance première, parce que si Dieu a ton oreille, il aura ton cœur, il aura ta vie. Si ton oreille est ouverte, comme le poinçon a percé l'oreille, il y a comme une ouverture, si tu laisses Dieu ouvrir ton oreille à sa voix, alors tes pas seront dirigés, tes décisions seront inspirées, l'orientation de ton parcours sera gérée par le son de sa voix. La Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde, on est dur de la feuille. On a l'oreille qui a besoin d'être ouverte. Hein? Vous savez ce qu'il est dit? Lorsque Jésus a rencontré les deux disciples découragés là sur le chemin d'Emmaüs, mais de quoi vous parlez entre vous pour être si tristes? Alors ils déversent leur cœur. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus leur ouvrit l'esprit. Il y a une ouverture. Et j'ai besoin d'avoir une oreille ouverte à la voix de mon Dieu. Alléluia. Le prophète en fait une prière et une confession. Le Seigneur, chaque matin, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Un disciple, il n'a qu'une passion, c'est ressembler à son maître. Amen. Alors, l'oreille du disciple doit être une oreille réceptive, hospitalière vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, voilà, ce poinçon a transpercé l'oreille, image de l'ouverture de notre écoute que Dieu veut opérer en chacun d'entre nous. Et vous l'imaginez bien, c'est douloureux. Oui? Si quelqu'un n'est pas convaincu, je peux essayer tout à l'heure. C'est douloureux. Transpercer l'oreille, rien que d'y penser, moi je prends un doliprane. Ouais. C'est douloureux. Et mon frère, ma sœur, la souffrance c'est le cheminement pédagogique de Dieu pour t'ouvrir l'oreille. Il y a des souffrances qui sont les conséquences de notre inconséquence, certes, mais il y a des souffrances qui sont pédagogiques. Même de Jésus, il est dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est par cette école de l'épreuve, du combat de la foi, quelquefois des souffrances psychologiques, affectives, il y a des choses qu'on n'aurait jamais voulu vivre, et cependant, elles font partie de l'apprentissage et de la pédagogie de Dieu pour nous ouvrir l'oreille. Nous l'avons lu ensemble dans le livre du prophète Amos, Dieu le dit, « Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Gloire à Dieu. C'est pas sympathique un désert, mais c'est pourtant là que Dieu va parler et Dieu dit « Là, là, alors je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Là, dans le désert, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. » Il se passe des bénédictions là. Cependant, il y a un passage éducatif, pédagogique, qui est celui de l'épreuve. Et je crois vraiment, frères et sœurs, que si Dieu permet qu'ici ou là nous passions par telle ou telle épreuve, c'est parce que déjà il a préparé les résultats glorieux de nos épreuves. Personne ne dit amen, c'est sûr, mais c'est pourtant comme ça. Le poinçon va susciter une douleur. Eh bien, écoutez, moi j'avoue avec beaucoup de simplicité que la plupart des leçons spirituelles que j'ai fini par acquérir, je les ai acquises au prix d'épreuves et de souffrances. On n'apprendra jamais la patience en lisant des bibliothèques sur la patience, mais on apprendra la patience en traversant des déserts et en se laissant parfois, poum, transpercer l'oreille par le poinçon. On n'apprendra jamais l'humilité, la production du fruit de l'esprit, la douceur, etc., sans passer par l'école de la souffrance. L'or ne sera jamais débarrassé de ses impuretés sans que le fondeur ne le passe par le creuset. Alors là, dans des températures très élevées, l'or se liquifie et le fondeur le débarrasse de ses impuretés. Résultat, on a de l'or pur et de grande valeur. Que le Seigneur touche notre oreille et développe sa sensibilité à sa voix. Alléluia.